Sunwo Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'épilepsie est la troisième maladie neurologique la plus fréquente derrière la migraine et les démences, une affection assez répandue et pourtant toujours mal connue. Mais doit-on parler de l'épilepsie ou des épilepsies au pluriel, tant ses manifestations, les réponses au traitement, les troubles associés varient en fonction des individus. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons en particulier de l'impact de cette maladie sur la vie quotidienne. Comment composer avec l'épilepsie dans sa vie de tous les jours? Doit-on changer certaines habitudes, renoncer à certaines pratiques ou certains projets, hein, même lorsque l'on souffre de cette maladie? Dans quelle mesure une prise en charge adaptée peut-elle permettre de supporter, de surmonter les conséquences de la maladie? Et cet impact sur la vie quotidienne, c'est aussi le regard que les autres portent sur cette pathologie, causée par une excitation anormale des neurones, un regard bâti sur l'incompréhension, voire sur certains préjugés accentués par le caractère impressionnant de certaines manifestations au travers des crises convulsives. Méconnues et spectaculaires, ces caractères propres à cette maladie expliquent que depuis toujours, l'épilepsie effraie et reste encore aujourd'hui aux yeux de certains associée à la sorcellerie. Confusion, fausse croyance qu'il faut s'employer à démentir pour faire reculer les stigmatisations des patients atteints d'épilepsie. Vivre avec l'épilepsie au jour le jour. Avec nous en studio, docteur Gilles Huberfeld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, neurophysiologiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également, docteur Huberfeld, maître de conférence des universités. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de la République démocratique du Congo le professeur Célestin Caputou. Il est neuropsychiatre et neuropédiatre au centre neuropsychopathologique, enseignant également à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Et en fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra à des questions d'auditeurs, questions que vous pouvez poser au 33 84 22 75 75 ou en laissant un message sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Gilles Huberfeld, question pour commencer sur ce caractère complexe pluriel de l'épilepsie, diversité de symptômes, diversité d'évolution. Lorsque l'on annonce à un patient qu'il est atteint d'épilepsie, les implications peuvent être très différentes. Est-ce qu'il arrive en général avec ce mot d'épilepsie, avec ses propres croyances ?
C'est très très variable. Il y a des patients qui traînent leur bagage épileptique depuis longtemps, parfois plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années, et qui ont déjà vécu un certain nombre des complications liées aux crises, des stigmates liés aux crises. Ceux-ci, on va essayer de s'employer à les rassurer, à les mettre sur un chemin qui va leur permettre de vivre ça le mieux possible. Et chez d'autres patients qui auront eu des crises légères ou des crises depuis très peu de temps, on va essayer d'expliquer un peu mieux les implications que va avoir la maladie sur leur vie quotidienne, en essayant à chaque fois le plus possible de faire en sorte que ça ne change pas grand-chose. Dieu merci, on a les médicaments qui vont permettre d'avoir une certaine marge de sécurité, généralement une très bonne marge de sécurité, et permettre à la plupart des gens de vivre à peu près de manière identique à ce qu'ils auraient vécu si jamais ils n'avaient pas eu d'épilepsie.
Est-ce que vous diriez, on sait que le lien de confiance est essentiel entre le médecin et son patient, est-ce que vous diriez que c'est encore accentué pour l'épilepsie ?
C'est un lien qui est fondamental, évidemment, dans toutes les maladies, dans toutes les souffrances. Et dans le champ de l'épilepsie, je pense pas qu'il soit plus important que les autres. Par contre, dans le champ de l'épilepsie, il y a beaucoup de non-dits. Et ça peut être important, quand on est un professionnel de santé, d'aller au-devant des non-dits du patient. Vous voyez, par exemple, dans beaucoup de crises, les patients ressentent des symptômes un peu étranges qu'ils ont du mal à décrire. Et quand nous, médecins, parce qu'on les connaît, on met des mots précis sur ces symptômes, ils se sentent reconnus, ils se sentent en terrain, en quelque sorte non hostile et en tout cas tout à fait familier, et généralement ça leur fait un bien fou.
Parce que d'une certaine manière ils ont l'impression d'être anormaux, je mets des normes guillemets, mais c'est bien ça dont il s'agit.
Pour certains d'entre eux, il y a une dimension d'anormalité, et pour un certain nombre d'autres, il y a une difficulté à trouver les mots, et quand on ne trouve pas les mots, on a du mal à comprendre le concept.
Alors, docteur Huberfeld, dès qu'on parle de cette maladie, hein, impératif de chercher de chasser des idées reçues, justement, est-ce que quand on est épileptique, quand on est atteint, obligatoirement, on doit renoncer à certaines activités ?
Alors certaines oui, mais qui sont éventuellement des activités tout à fait à la marge. Si on est plongeur professionnel, on va pas pouvoir continuer. Si on est pilote d'avion, on va pas pouvoir continuer. Si on est pilote de voiture de course, on va pas pouvoir continuer. Si on veut être champion du monde de parachutisme, on va pas pouvoir continuer. Mais à côté de ça, on a énormément de choses qu'on va pouvoir continuer à faire, parfois avec une adaptation minime et la plupart du temps sans le modifier.
Alors beaucoup de questions qui peuvent se poser sur ce fameux quotidien, des changements possibles. En ce qui concerne ces interrogations, je me suis fait aider par un auditeur. Il s'appelle Victor, il vit au Rwanda. Alors, il a fait une liste sur la page Facebook de l'émission. Je vais vous soumettre ces questions. Question de Victor. Est-ce qu'une personne atteinte d'épilepsie doit obligatoirement porter un document le précisant ?
Non.
Voilà, ça va vite. Est-ce qu'un épileptique peut conduire ?
Alors, la réglementation change d'un pays à l'autre. Mais en France, par exemple, on a le droit de conduire quand on a une épilepsie contrôlée. Et par contrôlée, on entend généralement une absence de crise depuis au moins 6 mois. La situation peut un petit peu changer chez des patients qui n'ont des crises que la nuit. A priori, le risque d'être impacté en conduisant une voiture est très très limité. Et puis l'autre chose, c'est les patients qui vont avoir des crises qui ne modifient en aucun cas leur conscience, qui pourront éventuellement s'arrêter. Donc on peut conduire dans de nombreux cas.
Alors d'autres activités qui posent question à Victor, les voyages et le sport sont-ils déconseillés à une personne qui souffre d'épilepsie ?
Absolument pas. On peut faire quasiment tous les sports, sauf certains sports où parce que on aurait une rupture de contact, une perte de conscience, un malaise, on mettrait sa vie en jeu. C'est par exemple le cas de la plongée sous-marine qui est contre-indiquée. Les voyages ne sont pas contre-indiqués non plus. Il faut gérer 2-3 petites choses. Avec le décalage horaire, il faudrait éventuellement gérer la modification de l'horaire des prises des médicaments, éviter de se déshydrater, prévoir d'avoir suffisamment de médicaments pour pouvoir voyager. Mais ça n'est pas une limitation.
Alors, autre question, l'alcool est-il déconseillé ?
Généralement non. Alors, c'est un peu compliqué l'alcool. L'alcool, pour commencer...
Déjà dans priorité santé, on dit qu'en général, l'alcool, c'est pas très bon pour la santé. Bon, maintenant, après, sur les interdictions formelles.
Alors, pour l'épilepsie, l'alcool, c'est plutôt anti-épileptique. C'est pas pro-épileptique, c'est anti-épileptique. Néanmoins, un bon quart des alcooliques, des patients qui consomment tous les jours trop d'alcool, sont épileptiques. Alors cette épilepsie, elle est liée généralement à d'autres choses. La première cause de très loin, c'est plutôt quand ils se sèvrent. Quand ils arrêtent l'alcool brutalement, ils sont très à risque de faire des crises, ce qui veut bien dire d'ailleurs que c'est anti-épileptique. Et puis par ailleurs, les patients sous vont pouvoir tomber, se faire des traumatismes crâniens, souvent se nourrissent mal et ont des troubles alimentaires avec des carences diverses et variées qui contribuent à l'épilepsie. Après, donc ça veut dire qu'on n'a pas de contre-indication véritable de l'alcool. Le problème avec l'alcool, c'est que, premièrement, ça dégrade la qualité du sommeil. Et on sait que chez beaucoup de patients, la qualité du sommeil, c'est important pour être équilibré vis-à-vis de ces crises d'épilepsie. Donc si on dort mal, on aura plus de crises. L'autre chose, c'est que si on boit trop, on peut oublier par exemple de prendre ses médicaments et à ce titre-là, faire des crises. Mais donc, boire de manière raisonnable une fois de temps en temps, chez la grande majorité des patients, c'est tout à fait possible. Et enfin, il y a une petite sous-catégorie de patients, honnêtement assez limitée, qui vont faire plus de crises quand ils boivent, même un petit peu. Et ceci, généralement, ils le savent bien.
Donc, il n'y a pas de mise en garde particulière par rapport aux autres catégories de la population ?
Non.
C'est ça.
Dernière petite chose juste que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec l'alcool et les anti-épileptiques, on va avoir un effet antabuse, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sous avec une quantité moindre d'alcool qu'on aura ingéré.
Alors une autre question, là je suis complète avec les questions de Victor. Est-ce que la présence répétée ou prolongée devant un écran est contre-indiquée ou problématique ?
Dans l'immense majorité des cas, non. Un certain nombre d'épilepsies sont dites photosensibles, c'est moins de 5% de l'ensemble des épilepsies, donc vous voyez que c'est tout à fait minoritaire. Et dans ces épilepsies-là, des phénomènes lumineux ou des phénomènes visuels peuvent favoriser. Ça peut être de fortes luminosités, de forts changements de luminosité ou des forts changements de contraste. Donc chez ces... Et ça, on l'identifie relativement bien avec l'électroencéphalogramme et les stimulations lumineuses. Donc généralement, le médecin peut dire au patient s'il est susceptible de plus faire des crises ou d'être plus gêné avec du travail sur écran. C'est tout à fait minoritaire.
Beaucoup d'auditeurs nous demandent si l'épilepsie est héréditaire. Est-ce que c'est aussi une question qu'on vous pose en consultation, Dr Huberfeld ?
Oui. Alors, l'hérédité et l'épilepsie, c'est une affaire un peu complexe. Pour commencer, on a des maladies héréditaires classiques, c'est-à-dire où un parent va transmettre à son enfant un gène modifié qui va le prédisposer à l'épilepsie. Ça, c'est très rare. Ce qu'on a par contre plus fréquemment, c'est que si on prend une personne épileptique donnée et qu'on regarde dans sa famille le taux de patients, le taux de personnes qui vont avoir une épilepsie, a priori il y aura un petit peu plus, mais un tout petit peu plus que le voisin. Et ça, on pense que c'est ce qu'on appelle l'hérédité multifactorielle. On reçoit de ses parents plein de gènes. certaines avec des composantes qui vont protéger, certaines avec des composantes qui vont plutôt favoriser. Et du coup, quand on a une épilepsie, on aura reçu un petit peu plus de choses qui vont favoriser, qui, couplées à des facteurs d'environnement, de rencontres dans la vie, de maladies autres, vont pouvoir faire une épilepsie. Donc c'est un simple terrain qui, honnêtement, a une influence assez mineure.
Alors, docteur Gilles Huberfeld, on va donner dans quelques minutes la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Tout de suite, un témoignage.
Priorité Santé sur RFI.
Témoignage de Coralie, une jeune femme âgée de 18 ans, diagnostic d'épilepsie posé il y a 4 ans. Et comme de nombreux élèves concernés par cette maladie neurologique chronique en France, Coralie a pu bénéficier d'un aménagement de scolarité au lycée. Héloïse Bajou l'a rencontrée en région parisienne où elle vit.
L'épilepsie, moi, a été diagnostiquée quand j'ai été en 3e, juste avant le brevet, parce que je tombais, je convulsais. J'étais pendant presque plus d'une minute par terre à convulser. Et puis on savait pas vraiment ce que c'était. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit « bah c'est l'épilepsie ». Je me souvenais de rien du tout, je chantais rien. J'ai eu plus de 2 opérations, donc maintenant j'ai presque plus rien. Et maintenant je ressens un petit peu, je me souviens, ah oui, quand ma main elle se bloque, je me suis fait « papa, maman, ma main se bloque » pour que du coup il m'attrape les choses que j'ai dans la main pour pas faire tomber. Des fois, c'est quand je sens que je suis fatiguée, ou alors c'est que souvent j'ai des fois mes yeux qui vision trouble. Donc je sais que faut que je me pose parce que sinon si je lutte, je peux faire une crise. Et en seconde et en première, j'ai pas mal de difficultés parce que j'avais quand même beaucoup de crises, beaucoup plus fatiguée avec les médicaments que je prends et la mémoire aussi, ça a impacté un petit peu sur tout ça. Mais avec la première opération, c'était moins compliqué. J'ai pu arriver en classe, les notes sont remontées. Et du coup, avec la deuxième, c'était encore mieux. Du coup, c'est pour ça que j'ai réussi à avoir un bac en 2 ans. Je passe à un bac S, donc c'est compliqué, les matières, c'est pas simple. Donc c'est pour ça qu'on a aménagé le bac. Au début, j'avais du mal à en parler. J'avais du mal à dire que j'étais épileptique, parce que je voulais pas le montrer, je voulais pas le dire, en fait. Tout au début, ça a impacté, parce que c'est là où j'ai vu les personnes qui sont un peu restées auprès de moi, qui m'ont un peu soutenue. Et d'autres, m'ont plus parlé, comme si c'était, il est épileptique, on lui parle plus. Dans les moments difficiles, c'est là où on voit les vrais amis. Mais maintenant, je me dis, je suis comme tout le monde, il faut vivre comme tout le monde, profiter de sa vie. Parce que c'est pas parce qu'on est épileptique qu'on doit se priver des choses.
On entendait donc ce témoignage recueilli par Héloïse Bajou. Cette jeune fille explique, Coralie, qu'elle a été opérée, docteur Gilles Huberfeld. Est-ce que cette option de la chirurgie, c'est fréquent dans la prise en charge?
Alors c'est rare, c'est ultra minoritaire. En fait, on peut opérer parfois certains patients, on a un certain nombre de conditions à respecter avant. Premièrement, il faut que ce soit une épilepsie focale, c'est-à-dire qu'il part d'une partie limitée du cerveau. Comprenez bien que si c'est tout le cerveau en même temps, on peut pas l'enlever en entier. Ensuite, il faut que ce soit dans une région qu'on arrive à localiser. C'est pas toujours très simple. Ensuite, il faut que ce soit une région opérable, c'est-à-dire qu'elle soit accessible et puis surtout que si on l'enlève, qu'il n'y ait pas de séquelles pires que la maladie elle-même. Et puis ensuite, on a quelques autres conditions, il faut que ce soit une région unique, pas des régions multiples, ainsi de suite. Ça fait que le taux de patients qui est potentiellement candidat à la chirurgie est très très limité, moins de 4% des patients. Par contre, quand on peut le faire, généralement ça marche très bien et ça fait partie des traitements qui vont guérir l'épilepsie. Les médicaments anti-épileptiques qu'on utilise ne guérissent en aucun cas l'épilepsie, ils empêchent le symptôme crise d'épilepsie de survenir, sachant que le cerveau est toujours prédisposé à faire les crises. Alors que lorsqu'on arrive à enlever la région qui est à l'origine des crises, quand ça marche bien, on peut parler de guérison de la maladie.
Alors, cette jeune femme ressent des signes avant-coureurs, est-ce que c'est fréquent?
C'est très fréquent. C'est quelque chose qu'initialement on a appelé d'un faux terme qui s'appelait aura. Et aura, c'est pas du tout adapté parce que ça veut dire que ça annonce quelque chose. Et en aucun cas, là, ça témoigne du fait que la crise a déjà débuté. Et en fait, en fonction de la localisation, en fonction du type de décharge épileptique et de sa complexité, on aura ou non une rupture de contact. Et quand on est bien en contact, on peut ressentir des choses. C'est très fréquent.
Alors d'autres témoignages tout de suite, on retrouve les auditeurs de Priorité Santé. Premier auditeur, c'est Domi qui est en République démocratique du Congo à Matadi. Bonjour Domi.
Bonjour madame.
On vous écoute, le docteur Huberfeld est à votre écoute, allez-y.
Ok, bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Oui, comme je dis ça hier, j'ai ma fille qui a aujourd'hui 19 ans. une jeune fille là. C'est depuis 2 ans qu'elle souffre de l'épilepsie. Alors, chaque fois quand il veut faire des crises, il vient près de vous, elle vous dit, papa ou bien maman, je vais convulser, je dis que je vais faire une crise. Et par après, vous verrez que l'enfant fait une forte crise et puis elle fait pipi. C'est ce qui a fait qu'à cet âge qu'elle a aujourd'hui, on n'a pas même pu faire tout pour la faire scolariser. Elle est à la maison. Et puis bon, on avait quand même eu un répétiteur qui venait quand même essayer un peu de lui donner un peu quelques cours à la maison. Mm-hmm. Et là, elle fait compter de 1 à 100.
Elle a quel âge, votre fille, aujourd'hui ?
Elle a 19 ans.
19 ans, d'accord. 19 ans. Mais elle a été prise en charge par un médecin ? On lui a donné un traitement ?
Oui, elle était prise en charge par un centre à Kinshasa, à 365 km de Matadi.
Oui, très loin, oui.
Mm-mm. Et là, maintenant, c'est au centre Téléma, à Kinshasa. Alors, on avait prescrit des phénobarbital qu'elle prend chaque fois. Alors, cette crise se produit souvent, c'est quand il y a la nouvelle ligne. Alors, là, maintenant, elle fait ça pour une journée, tantôt 3 fois.
Trois
fois par jour. Et le soir, quand elle fait ça, vous verrez qu'elle devient comme si elle est devenue inconsciente. Mmh. Et puis, elle n'a pas l'appétit, elle n'a pas l'envie de... C'est comme si elle est délaissée comme ça. Et c'est par après, elle se retrouve... Par mois, elle peut faire ça 2 ou 3 fois seulement, et puis le reste, c'est comme s'il n'y a rien. Mais chaque fois, nous admirons toujours le phénobarbital.
Vous lui administrez le phénobarbital, et Domi, j'ai une autre question. Elle voit un médecin, elle voit un spécialiste, souvent, ou c'est une fois vraiment de temps en temps ?
Oui, c'est-à-dire, depuis qu'on nous avait donné cette cure-là, qu'on nous avait prescrit cette cure-là de phénobarbital,
oui.
C'est ce qui fait que nous sommes toujours derrière sa main. Apparemment, bon, c'est pourquoi j'ai voulu poser la question au docteur si on peut changer un autre produit qui pourrait quand même l'accompagner, quoi.
Bien sûr.
Docteur Gilles Huberfeld, je vais vous donner la parole, mais bien sûr, ce n'est pas comme ça à la radio, au téléphone, qu'on peut vous faire un changement de traitement. Pour cela, il faudra que vous alliez voir le médecin qui suit votre fille, mais je donne tout de suite la parole au docteur Gilles Huberfeld.
Alors, ce qu'il y a de fondamental, c'est de savoir que les médicaments antiépileptiques, c'est des médicaments qui visent à empêcher que la crise arrive. Ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est des sortes de médicaments préventifs. Donc, il faut les prendre tous les jours. Donc, le phénobarbital, j'espère qu'elle le prend bien tous les soirs et pas uniquement quand elle a eu une crise, parce qu'à ce moment-là, ça sert plus à rien. La crise est déjà survenue. Est-ce que les médicaments marchent bien ? Ils marchent plutôt bien parce qu'en fait, on arrive à contrôler l'épilepsie chez plus de 2/3 des patients. Par contre, c'est pas pour autant le premier traitement qui va marcher. En gros, le premier traitement, il marche chez 1/4 des patients. On arrive à équilibrer les patients avec un seul médicament dans à peu près la moitié des cas. Et puis autrement, il va falloir faire des associations de traitement. Donc là, je pense, de ce que vous me dites, ce qui est important, c'est de vérifier que le traitement est bien pris tous les jours, ça c'est important. Et si des crises persistent, malgré un traitement bien pris tous les jours, il faut effectivement voir pour modifier le traitement antiépileptique.
Domi, est-ce que votre fille prend bien son traitement régulièrement tous les jours ?
C'est-à-dire, pour elle, c'est devenu comme une nourriture quotidienne. Elle sait elle-même que chaque matin, elle doit prendre le phénon. Ainsi que le soir avant qu'elle couche.
Donc elle le prend bien. Mais est-ce que vous pouvez bientôt la reconduire, l'accompagner pour faire une autre consultation justement avec un spécialiste pour voir si on peut aménager ce traitement ?
Oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons encore repartir au centre Téléma de Kinshasa parce qu'ici à Matadi, on n'a pas un spécialiste. Alors voilà, tout ça c'est un peu du coup. Bon, nous allons quand même faire notre mieux pour repartir, pour que nous puissions voir si on peut changer. Parce que apparemment, nous avons vu qu'il y a un aménagement et une amélioration pratique par rapport quand elle avait encore 8 ans, 7 ans. Pour l'instant, vraiment, il y a quand même cette légère amélioration.
Donc, comme le disait le docteur Gilles Huberfeld, peut-être qu'il faut associer autre chose. Donc, aller en consultation. En tout cas, on voit que vous faites énormément d'efforts pour votre fille, vous occupez d'elle. On vous souhaite une très, très bonne journée à Matadi, en République démocratique du Congo. On va partir tout de suite pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, où nous sommes en ligne avec Emmanuel. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va bien, le docteur Huberfeld est à votre écoute. Allez-y.
D'accord. Alors moi, je voudrais parler de la stigmatisation de l'épilepsie pour en ce qui concerne un patient épileptique. Moi, par exemple, j'ai été diagnostiqué depuis 2007 épileptique. J'ai 28 ans actuellement et je vous dis que c'est pas toujours facile. Par exemple, à mon boulot actuellement, on pense que je fais exprès d'avoir des crises épileptiques malgré les diagnostics du médecin. On pense que je simule des crises épileptiques afin de ne pas travailler, par exemple. Vous comprenez? Donc, c'est pas toujours facile de vivre ce genre de conditions où quand il y a des remarques du genre on vous a lancé un sort, quelque chose comme ça. C'est pas toujours intéressant. C'est pas toujours facile. C'est très vexant et blessant même par.
Malgré tout, vous avez un bon boulot. Vous êtes l'incarnation, la preuve que avec cette maladie, on peut avancer, on peut faire des choses dans sa vie.
Oui, et c'est ce que je n'arrête pas de dire. On peut, même étant épileptique, on peut faire de grandes choses. On peut atteindre ses objectifs. Il ne faut pas se laisser miner par la maladie. Moi, je dis toujours, quand j'ai des crises d'épilepsie, des crises tonico-cloniques, je flirte avec la mort, mais je reviens à moi après, parce que c'est exactement ça.
Parce que ces crises, elles ont eu un gros impact sur votre santé. Vous avez déjà eu des blessures à cause de ces crises?
Oui, je me suis déjà brisé les deux épaules. Donc, j'ai eu des traumatismes crâniens. J'ai subi quelques opérations justement pour refixer les épaules, mais voilà quoi.
Mais il y a moyen, par exemple, que vous preniez un petit peu de temps, que vous demandiez un entretien avec quelqu'un dans votre entreprise pour lui dire voilà, là, je suis pas en crise, mais je vais exactement t'expliquer ce dont je souffre, ce qu'est ma maladie, ou c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie de parler.
Ça a déjà été fait. J'ai déjà expliqué. Ce n'est pas un sujet tabou pour moi.
Oui. Mais c'est eux qui ont les oreilles fermées.
Oui. C'est ça, les oreilles sont fermées, il y a des objectifs à atteindre. Et si les objectifs ne sont pas atteints, on ne considère pas vraiment ce qui se passe autour.
On peut dire que vous avez l'intelligence de votre maladie, mais eux ne l'ont pas. Docteur Gilles Huberfeld, qu'est-ce que vous pouvez dire à Emmanuel?
Effectivement, vous êtes malheureusement doublement victime de votre épilepsie et puis de l'attitude de certains autour de vous, notamment au travail. C'est très difficile. Faire progresser les gens, c'est déjà difficile. Politiquement, n'en parlons pas. Vis-à-vis de la maladie, c'est effectivement particulièrement compliqué. Je suis désolé, mais on ne rend pas les gens intelligents. On peut les éduquer un petit peu, mais on ne rend pas les gens intelligents. On essaye dans le champ de l'épilepsie d'expliquer le plus possible que c'est une maladie cérébrale comme une autre, et c'est une maladie cérébrale comme une autre, qui n'est pas toujours très facile à équilibrer, qui est impressionnante, en fait pas toujours, mais qu'on a toujours à apprendre des gens qui ont une difficulté dans la vie, et pour le coup notamment des patients qui ont une épilepsie. Donc bon courage, c'est sûr, c'est pas facile, et les mentalités, si elles changent, elles le font très 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 lentement.
En tout cas, bonne journée à vous. Merci beaucoup pour ce témoignage, Emmanuel. Très bonne journée à Abidjan. On va partir pour le Mali maintenant, pour Ségou, où l'on retrouve Younoussa. Bonjour Younoussa, nous sommes à votre écoute. Allez-y.
Bonjour.
On vous écoute.
Allô?
Oui, oui, on est là, on vous écoute. Allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Vous allez bien?
Bien. Et vous?
Ok. Donc, je vais bien. Donc, j'ai un garçon qui a 8 ans cette année. Donc, on a constaté depuis entre octobre et décembre 2015, on a constaté une certaine anormalité dans son comportement. Donc, c'est ainsi que je l'ai amené à Ségou, à l'hôpital, chez un généraliste. Donc, ce dernier-là, il a vu et on l'a fait des examens. Donc, on m'a conseillé d'aller à Bamako. Donc, c'est ainsi que je suis parti à Bamako, à l'hôpital Gabriel Touré. Donc, on m'a dit de faire un examen, un EEG, un électroencéphalogramme. Donc, cet examen-là, j'ai eu à le faire dans une clinique de la place. Donc, il s'est avéré qu'au niveau de son cerveau, une localité, il y a une anormalité. Donc, on dit que c'est une sorte d'épilepsie. Donc, on l'a mis sous traitement. Deux produits, Dépakine et Nootropil. Ça, c'était depuis janvier 2016. Jusqu'à 6 mois, je faisais ce traitement-là. Je ne constate aucune amélioration. Donc, j'ai arrêté le traitement. Maintenant, je demande, ma question est que, ça dit, est-ce que l'épilepsie, parce que l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à 5 ans, on n'a constaté aucune anormalité chez l'enfant. L'enfant a marché normalement, l'enfant n'a presque pas à ramper, il parle normalement. Donc c'est à partir de cette date-là qu'on a constaté ces difficultés-là.
Mais les difficultés, c'était quoi précisément? C'était qu'il était agité? Est-ce qu'il faisait des... il ne faisait pas de crise?
Non, il n'a jamais fait de crise, mais il est beaucoup agité. Je me rappelle lorsque je l'ai amené à l'hôpital, le premier médicament que le docteur m'a prescrit, c'était Rivotil, pour pouvoir le stabiliser. Imaginez, on ne peut même pas le maintenir, tellement agité. Il est agité.
C'est quoi, ses bras partent dans tous les sens? Il est très très énervé, c'est ça?
Non, mais oui, il s'énerve souvent parce qu'il n'aime pas la pression. Il s'énerve. Si tu lui dis de cesser ça, il refuse. La même chose, il saute par-ci, il saute par-là.
Il est sensible au bruit, votre fils? Est-ce qu'il est sensible au bruit? Est-ce que le bruit l'embête quand on le dispute? Est-ce que ça le met hors de lui?
Oui, effectivement, le bruit l'embête. Il n'aime pas. Parce que souvent, il dit même que vous parlez trop, vous criez sur lui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on le gronde, il n'aime même pas qu'on le châtie, parce que souvent on le châtie un tout petit peu, il n'aime pas ça.
Est-ce que c'est un excusez-moi Younous, est-ce que c'est un neurologue qui a posé le diagnostic de votre fils ou c'est un autre médecin?
C'est pas un neurologue, mais c'est un pédiatre spécialiste.
Un pédiatre spécialiste. Bon, je donne la parole au docteur Hubert Feld.
Sur ce que vous me dites, moi, j'ai aucune certitude quant au fait que votre fils a une épilepsie. Une épilepsie, c'est des crises qui prennent des aspects très très différents hein, d'un patient à l'autre et qui de temps en temps même sont uniquement la nuit, dont on s'en rend pas forcément très bien compte. Mais vous mettez en avant principalement des troubles du comportement. Alors, on peut avoir hein, des patients qui ont une épilepsie et des troubles du comportement, mais j'ai pas l'impression dans ce que vous me décrivez que c'est potentiellement une épilepsie qui pose problème. L'électroencéphalographie, c'est un examen assez fondamental. En fait, on a une chance folle dans le champ de l'épilepsie, c'est qu'on a cet examen qui est très important et très efficace pour le diagnostic. Comme l'épilepsie, c'est une anomalie du fonctionnement électrique du cerveau, que l'électroencéphalographie, ça enregistre l'activité électrique du cerveau, on est assez performant pour enregistrer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe jamais, et ça ne veut pas dire que des choses prises pour de l'épilepsie puissent pas être autre chose. Donc globalement, dans tout ce que vous me dites, je pense qu'il est important d'essayer de reconsidérer les choses, de revoir si la problématique de votre fils, elle est plutôt épileptique ou plutôt non épileptique avec ses troubles comportementaux. Et personnellement, je pencherais plutôt pour ça.
Parce que ça expliquerait aussi que les médicaments ne fonctionnent pas.
Tout à fait. Ça expliquerait que les médicaments ne fonctionnent pas parce qu'ils n'étaient pas les bons. Et ça expliquerait également que la prise en charge ne puisse être autre chose que purement liée à des médicaments.
Alors, on peut orienter Younoussa vers quel type de spécialiste? Vers un autre pédiatre? Vers un psychiatre? Je ne sais
pas. Idéalement, un neuropédiatre ou un neuropsychiatre peut essayer de mieux comprendre ce qui se passe.
Est-ce que vous pouvez demander justement au médecin qui prend en charge votre enfant s'il a un confrère qui pourrait davantage l'orienter par rapport à ce qu'on vient de dire?
Oui, effectivement, il y a des neuropédiatres, mais comme moi, je suis à Ségou.
Ah, je comprends, donc, c'est loin.
C'est à 240, donc ce n'est pas évident que je puisse me rendre là-bas tout le temps. Donc maintenant, en tout cas, il m'avait parlé de ce neuropsychiatre-là, c'est-à-dire...
Donc ça veut dire que lui-même pensait que ça pouvait être pertinent, donc c'est vraiment une autre piste, ça peut être un autre avis, qui peut dire que Younoussa, au moment où vous aurez à la fois les moyens et la possibilité d'aller à Bamako pour consulter, ça pourrait être quelque chose de bien pour votre fils.
Ok.
Alors je pense vraiment que ça peut être un peu de temps à gérer pour aller à Bamako, mais beaucoup de temps gagné pour la suite.
Aussi pour la suite, pour la vie de la famille, ça peut être très important aussi. Très bonne journée, Younoussa Assegou. On va partir dans quelques instants pour la République démocratique du Congo pour avoir un autre regard sur la prise en charge. On l'a bien compris, en tout cas, il y a vraiment une question essentielle, la perception de la maladie. Est-ce que ça fait partie intégrante, hein, quand on a entendu tout à l'heure ce témoignage en Côte d'Ivoire d'Emmanuel, est-ce que ça fait vraiment partie intégrante, docteur Huberfeld, de la prise en charge? Faire comprendre aux patients aussi, d'une certaine manière, le regard des autres et s'habituer à la maladie.
Ça va être très variable, ça dépend vraiment du vécu qu'ont les gens et de leur environnement. Donc honnêtement, chez certaines personnes, ça ne pose aucun problème. Chez d'autres, c'est le problème principal. Et en fait, on s'adapte à chaque fois pour essayer d'aider les gens à mieux vivre leur maladie. De temps en temps, c'est intéressant aussi de voir les gens en famille, que ce soit des enfants, bon ça c'est évident, mais même parfois des adultes, de manière à mieux expliquer, de manière à dédramatiser et de manière à rendre les choses un petit peu plus simples.
Quelque chose d'essentiel, parce que c'est revenu aussi dans les questions des auditeurs, l'épilepsie, je le dis, n'est pas contagieuse et vous le répétez.
L'épilepsie n'est en aucun cas contagieuse.
Voilà, ça c'est dit, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin là-dessus, ça n'est pas contagieux. En fonction des patients aussi, la façon dont on supporte les traitements, docteur Gilles Huberfeld, ça peut modifier aussi le quotidien.
Ah, très clairement. Hein. Alors, globalement, quand l'épilepsie est facile à équilibrer avec un seul médicament, on essaye de trouver des petites doses d'un médicament qui ne va pas donner d'effet secondaire. Et puis, chez les patients qui résistent aux médicaments, on va avoir des doses plus importantes, un nombre de médicaments plus important, et on peut avoir des effets secondaires qui posent un énorme problème. Et parfois, chez certains patients, on sera amené à réduire les taux de médicaments, sachant qu'on aura plus de crises, mais moins d'effets secondaires. Et le ratio final, c'est une meilleure qualité de vie, mais un contrôle qui peut être un petit peu limité de l'épilepsie.
Et on part tout de suite, hein, comme promis, pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Célestin Caputou, bonjour.
Bonjour madame, bonjour les auditeurs d'RFI.
Vous êtes neuropsychiatre, neuropédiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Professeur Caputou, est-ce que l'épilepsie est aujourd'hui une maladie connue et bien connue par le grand public à Kinshasa ?
Bon, madame, une maladie très très bien connue, ça serait une exagération, comme je l'ai dit autrefois. La présence de l'épilepsie dépend de la couche de la population qui est concernée par l'information. Nous avons par exemple interrogé il y a 2 ans de cela le spécialiste des enseignants de l'université de Kinshasa qui ne font pas partie de la faculté de médecine. Nous avons remarqué que les enseignants de l'université, jusqu'à 11%, ils n'avaient pas de connaissances valables, adéquates sur l'épilepsie. Et ils pensaient, je dis bien les enseignants de l'université, que la maladie pouvait être contagieuse. Donc, quand on s'éloigne un peu de cette population plus ou moins éduquée, eh bien, la connaissance sur l'épilepsie devient fragmentaire et souvent ce sont des informations qui se transmettent de bouche à oreille qui ont pignon sur rue. Donc, c'est relativement bien connu dans les classes qui sont bien informées, mais des difficultés restent parce que ce qui est connu de l'épilepsie traditionnelle et autres, je pense que ça a une oreille dure.
Alors, professeur Caputou, en ce qui concerne là la fréquence de l'épilepsie en RDC, est-ce qu'il y a eu des études de menées ? Est-ce qu'il y a par exemple des chiffres disponibles au niveau de la capitale ?
Bon, madame, nous sommes limités par des études communautaires qui demandent un peu plus de moyens pour être réalisées. Nous avons des études hospitalières. Nous tournons autour de 6% pour ce qui regarde des consultations spécialisées dans les hôpitaux comme le centre neuropsychopathologique, qui est un centre déjà de tertiaire, de soins, d'enseignement, on est autour de 6% pour quand on prend sur une population de plus de 60 000 personnes qui consultent.
Alors, quand on parle de la prise en charge, hein, on parle bien sûr des traitements. On l'a vu tout à l'heure, certains peuvent être tout à fait efficaces, on peut ajuster ces traitements. Pour ce qui est de la question du coût des traitements, professeur Célestin Caputou, est-ce que c'est à la portée de la plupart des Congolais ?
La réponse est directement non. Pourquoi ? Parce que si nous prenons une étude qui a été faite à Lubumbashi, il y a eu 2 ans de cela, lorsqu'on prend par exemple le phénobarbital, qui est le médicament le moins cher, génériqué, nous sommes autour de 250 à 500 dollars si on ne fait pas des examens qu'il faut. Donc, la résonance magnétique et j'en passe. Alors maintenant, si nous prenons le coût complet, on fait les examens d'électroencéphalo, on fait l'EEG, on fait la résonance magnétique et la prise en charge correcte, eh bien, nous tournons autour de 1000 dollars.
Donc, c'est totalement inabordable pour la plupart des Congolais.
La réponse est oui, madame. Ce n'est pas très abordable. Et cela a un impact négatif directement sur la fréquentation des institutions hospitalières. Et c'est à ce moment-là, quand vous commencez un traitement et que par malheur, l'enfant ou l'adulte venait de convulser. Parce que dans un premier temps, quand vous commencez un traitement, il faut ajuster des doses. Et avant que les crises ne s'arrêtent, eh bien, le malade est vite parti voir un pasteur ou un traduit praticien qui lui coûte moins cher et lui promet moins merveille.
Docteur Gilles Huberfel, vous voulez réagir?
Oui, et en fait, on sait que le coût global pour la société d'un patient qui souffre d'épilepsie, c'est le coût des médicaments, c'est le coût des soins. Mais en fait, c'est minime, ça. C'est maximum 30% de l'ensemble du coût de la maladie. Et on estime que jusqu'à 60-70%, c'est ce qu'on appelle des coûts indirects, c'est-à-dire de l'absentéisme au travail, une formation qui est moindre que ce qu'elle aurait été si elle avait pu être optimisée, et ainsi de suite. Donc les coûts médicamenteux, c'est direct, c'est immédiat, c'est très important. Mais finalement, ils sont contrebalancés par le fait que si les patients sont bien traités, les coûts pour la société sont beaucoup plus faibles.
Et encore faut-il investir sur ces médicaments précisément, aller vers des génériques de ces médicaments pour les rendre accessibles. Ça existe, mais c'est pas forcément diffusé partout.
Alors, je connais pas bien la diffusion
mais
des génériques.
Mais je pense que le professeur Caputo va nous le dire. Hein, il existe des génériques, mais c'est difficile de se les procurer spécifiquement pour l'épilepsie dans certaines régions.
Oui, madame, les médicaments sont disponibles, du moins les médicaments qui sont connus depuis plusieurs années, le phénobarbital, le tegretol, autres sont des médicaments qui sont génériqués, qui viennent essentiellement de l'Inde. Mais le problème, c'est le coût. C'est le coût. Le problème, c'est le coût. Et surtout, le problème qui nous limite nous-mêmes et les malades, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas des mutuelles de santé, donc ils doivent payer ça directement de leur poche. Les médicaments sont disponibles. Je parle de médicaments des anciens, de première génération. Je ne parle pas des nouveaux, mais quand on a affaire à des gens qui sont un peu plus aisés économiquement, on se permet parfois d'ajouter des médicaments de nouvelle génération en add-on, mais c'est à la tête du client.
Alors vous disiez tout à l'heure justement, faute de moyens et puis aussi compte tenu des traditions, on se tourne vers les religieux, vers les tradis praticiens et tout ça, ça finit par continuer à entretenir un certain nombre de fausses croyances et de stigmatisations, on peut dire hein, qu'à ce sujet, la République démocratique du Congo, professeur Célestin Caputo, votre pays n'est pas épargné.
Du tout, madame. Il n'est pas rare, les collègues qui travaillent avec moi dans différents centres le savent mieux peut-être que moi d'ailleurs, qu'il m'est arrivé dernièrement de voir un pasteur qui a un enfant malade. J'ai passé 2 heures à lui expliquer que je pouvais prendre cet enfant en charge de manière rationnelle, dans la mesure où c'est une épilepsie que je pouvais être beaucoup plus facilement traitable. Et malheureusement, il ne m'a pas entendu de cette oreille et le pire est arrivé parce que l'enfant fait une crise nocturne et il en est mort.
Alors justement, RDC, hein, on dit stigmatisation, on a aussi ce message du Cameroun de Annie qui dit « Au village, cette maladie est associée à la sorcellerie, professeur Célestin Caputo. » On a compris, question de la prise en charge, question des médicaments, mais aussi question des idées reçues, comment on lutte contre cela?
Bon, madame, je dois avouer que sans aucun doute, au village, vous allez loin, même dans la capitale Kinshasa,
oui,
la sorcellerie est associée au mauvais esprit, associée à la sorcellerie. C'est ainsi que les pasteurs, c'est le premier à être consulté quand bien même on vivrait à Kinshasa. Donc, ce n'est pas un problème du village, c'est un problème, je pense, qui frappe l'Afrique, je ne sais pas, mais le Congo démocratique, oui. Même, alors les problèmes que maintenant il faut qu'il y ait il faut qu'on éduque cette population, qu'on leur dise que voilà, c'est une maladie bien sûr chronique, qui n'est pas contagieuse, qui peut être prise en charge du moins lorsqu'il n'y a pas une cause difficilement traitable, ainsi de suite. Mais cela, madame, ça marche avec ce que le malade est capable de faire. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui n'a pas de quoi payer le médicament, qu'il peut prendre en charge son enfant en prenant, mais j'achète le médicament chaque week-end. Alors, mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même sur place de sociétés savantes, nous avons l'association pour la promotion des neurosciences, nous avons la Ligue congolaise contre l'épilepsie, qui organise périodiquement des manifestations d'éducation pour pouvoir remettre à niveau le médecin qui sont le prestataire de première ligne qui sont vus par le malade, sur le comment diagnostiquer, sur le comment prendre en charge les épilepsies, et sur, par exemple, une prestation au mois de novembre dédiée exclusivement à l'épilepsie. Dans ce cadre-là, nous faisons ce que nous pouvons.
Gros travail de sensibilisation, on l'a bien entendu, également de formation des soignants. Merci beaucoup, professeur Célestin Caputou. Vous enseignez donc également à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
On arrive à la fin de notre émission, docteur Gilles Huberfeld. La France attend toujours un avis définitif des autorités de santé au sujet du cannabis thérapeutique. Et ça concerne une partie des patients qui sont épileptiques. Comment justement certains dérivés du cannabis peuvent être prescrits et quels effets ont-ils sur la maladie ?
Alors ça, c'est notre tarte à la crème du moment.
Mmh. On va pas s'en priver.
Bien sûr. Alors, on a une efficacité du cannabis sur les crises d'épilepsie qui est une efficacité honnêtement assez modeste, mais qui est présente. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans le cannabis qu'on absorbe à titre récréatif, il y a plein de substances différentes à l'intérieur. Dans le champ de l'épilepsie, nous, on a de la chance parce qu'on a une des substances qu'on a dans le cannabis, qu'on appelle le cannabidiol, c'est une des substances actives, qui a potentiellement des effets thérapeutiques, anti-épileptiques, mais pas des effets psychoactifs, c'est-à-dire ça rend pas gay, ça rend pas stone, ça ne fait rien de particulier de tout ça. Donc, les efforts dans le champ de l'épilepsie, et de beaucoup d'autres pathologies d'ailleurs, c'est d'utiliser des extraits de cannabis, des huiles qui sont extraites, maintenant c'est même les synthétiser, basées sur le cannabidiol. Il y a une efficacité qui existe, qui est très clair, quelques essais cliniques qui sont en cours. Mais il y a un problème majeur qui est qu'en fait, ces substances agissent également sur le foie et modifient la dégradation des autres médicaments. Donc au moins une partie de l'efficacité, c'est lié au fait que ça va moins dégrader les autres médicaments, donc il y en a plus. Et vous voyez que ça, c'est modeste. Mais il y a des effets propres et ils nécessitent d'être mieux connus.
Et en tout cas, d'en parler, quoi qu'il en soit, avec son médecin, en aucun cas de se procurer ces produits, par exemple, via Internet de son propre côté. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Gilles Huberfeld. Je rappelle que vous êtes neurologue, neurophysiologiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un auditeur de RFI pour répondre à sa question, le docteur Catherine Solano qui est toujours avec nous. Cet auditeur, c'est Loana qui nous appelle de République démocratique du Congo, de Kinshasa. Bonjour Loana.
Oui, bonjour Catherine.
Docteur Catherine Solano vous écoute.
Oui, moi, ma préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir si on apprend la vie sexuelle sur Internet ou soit en regardant les films pornographiques, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est mauvais? Parce qu'ici en Afrique, pour parler de la vie sexuelle entre les parents et ses enfants, c'est un grand tabou. C'est ça ma première préoccupation. Et la deuxième, j'aimerais savoir si un enfant peut à lui seul prendre l'initiative de poser des questions en rapport à la vie sexuelle auprès de ses parents.
Alors, docteur Solano, d'abord cette première question. Éducation sexuelle par le film pornographique.
Eh bien, je préférerais répondre à la deuxième en premier.
Mais
si
vous
n'y
couperez
pas,
vous répondrez aux deux.
Non, mais c'est parce que c'est plus long.
Je comprends bien.
Déjà, il y a beaucoup d'enfants qui posent des questions sur la sexualité, sur la vie sexuelle à leurs parents. Pourquoi mon zizi devient tout dur? Par exemple, je pense à un petit garçon qui disait « Pourquoi j'ai un zizi tour Eiffel ?» Ça veut dire « Mon zizi devient tout dur. Pourquoi j'ai des érections ?» Et ce qui se passe, c'est qu'ils posent des questions sur la sexualité à leurs parents. quand ils sentent que c'est pas trop un tabou. S'ils sentent que les parents sont très gênés, ils vont poser une petite question une fois, puis ils oseront plus en poser, ils feront comme si ça n'existait pas. Alors que si on leur explique tout simplement la réponse à leur question, bah, ils vont poser d'autres questions, et de plus en plus, parce que la sexualité, ça intéresse beaucoup les enfants, mais ils sont très curieux.
Docteur Solano, la plupart des questions à l'origine des enfants, c'est plus d'abord sur aussi la reproduction et cette fameuse question, comment on fait les bébés.
Comment on fait les bébés, exactement, ou pourquoi mon zizi devient tout dur, ou pourquoi, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ça, en montrant une petite serviette hygiénique pour les femmes quand elles ont les règles, pourquoi les gens ils s'embrassent, enfin vous voyez, plein de... Donc c'est bien de répondre autant qu'on peut à leurs questions, parce qu'ils en poseront d'autres et ils seront beaucoup plus à l'aise une fois adolescents et une fois adultes avec ce sujet.
Il y a peut-être le lien entre les deux. Quand on n'a pas les réponses, là, on est peut-être tenté, voilà, pour certains, d'aller vers la pornographie.
Exactement. Alors, quand les parents ne vous donnent aucune réponse, bah, vous vous dites, il y a un secret que les adultes gardent. Moi, je suis curieux et j'aimerais bien en apprendre plus. Et comme personne ne vous dit rien, vous allez chercher sur Internet et souvent sur la pornographie. Malheureusement, la pornographie, c'est pas du tout la manière idéale de commencer une vie sexuelle, parce que c'est vraiment pas du tout la vraie vie sexuelle. C'est-à-dire que déjà les femmes sont présentées, ne sont pas du tout respectées, d'ailleurs les hommes non plus, je dirais, hein. L'être humain n'est pas respecté dans la pornographie. Ça montre des choses qui sont fausses au niveau de la taille du pénis, par exemple, qui rend beaucoup d'hommes complexés parce qu'ils se disent, moi j'ai pas un pénis aussi grand, j'arrive pas à avoir des érections pendant des heures comme les acteurs, j'arrive pas à avoir autant d'éjaculation, parce qu'il y a tellement de montage, c'est fait en 50 fois, vous avez l'impression que cet homme il a une érection pendant 5 heures, alors que vous vous dites, moi j'arrive pas, et ben c'est normal. Tout est faux, si vous voulez. Les femmes n'ont pas de plaisir, elles simulent le plaisir, elles vont crier, alors que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. On n'apprend pas du tout avec la pornographie aux hommes comment donner du plaisir à une femme. Et en plus, ce qu'il y a de pire pour moi dans la pornographie, c'est l'utilisation d'humains comme support d'excitation. C'est-à-dire que les acteurs et les actrices qui tournent dans ces films font quelque chose qui ne leur fait pas de bien à eux-mêmes. Et du coup, ça apprend à ne pas respecter des humains, parce que ça vous montre qu'on peut se servir des gens comme d'objets. Et ça, c'est catastrophique. En plus, ça n'apprend pas du tout la sensualité. Les caresses, les préliminaires, n'en parlons pas, tous les baisers, toutes les caresses, etc. Donc je dirais que c'est presque un contre-apprentissage, la pornographie. Et encore aussi, ça incruste dans le cerveau des fantasmes qui deviennent souvent pathologiques. Par exemple, vous êtes un jeune homme adolescent, vous avez une voisine que vous trouvez jolie et vous vous dites, ah, si je pouvais apercevoir ses seins, ça serait extraordinairement merveilleux. Ça serait quelque chose de... Quand vous regardez de la pornographie, vous voyez des centaines de paires de seins, vous voyez plein de choses, et donc vos fantasmes vont se situer à des niveaux pornographiques au lieu de se situer à des choses naturelles de la vie. Et donc, je dis souvent, la pornographie, ça vole aux adolescents leur première fois. C'est-à-dire qu'ils vivent leur première fois devant un film pornographique au lieu de les vivre dans la vraie vie. Donc ça, c'est très dommage. C'est pour ça que je fais un appel aux parents pour parler de sexualité à leurs enfants, pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher de la pornographie. Ils en auront beaucoup moins envie s'ils sont informés.
Voilà, Loana, pour cette réponse. Est-ce que cette longue réponse du docteur Catherine Solano, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Marianne Appli, je l'ai bien comprise.
Très bien, merci, excellente journée à Kinshasa, docteur Solano.
Et oui. Je rajoute encore un petit quelque chose, c'est que, en fait, souvent, on confond pornographie et masturbation. C'est pas du tout la même chose. La masturbation, c'est quelque chose de naturel, de répandu universellement, qui habituellement se fait avec des fantasmes qu'on a dans la tête. On pense à des choses érotiques et on pratique la masturbation. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, est-ce que la masturbation c'est dangereux? Moi je réponds toujours non. Mais pour beaucoup d'hommes, la masturbation c'est associé à la pornographie. Et ça peut être dangereux, parce qu'il y a une escalade dans les fantasmes, et souvent après, dans la vraie vie, on peut avoir moins d'excitation, moins de désir, parce qu'on est habitué à des images pornographiques. Donc je voudrais bien scinder les deux.
Voilà votre réponse. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui fabrique votre émission. Juliette Brault, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Laurence Snow aujourd'hui. Demain, nous parlerons des violences conjugales, impact physique, psychologique, prévention, prise en charge. appelez-nous si vous souhaitez témoigner. Notre page Facebook 33 84 22 75 75, c'est le numéro de téléphone. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.